Aujourd'hui, Antendoc continue de vous faire voyager et nous sommes à Luzèche en compagnie de Monsieur Christian Marin qui est le président de l'association Sur la route d'Union des Oppidas Cadurc, anciennement Sur la route de Luxellodunum, je dis bien. Hein.
C'est ça, Luxellodunum, forteresse sur la colline. Alors Luxellodunum, c'est un oppidum, un village gaulois fortifié, que César va nous dire en pays cadurque, protégé par une large rivière et des falaises telles qu'un légionnaire ne saurait les gravir sans risquer sa vie.
Voilà. Alors ici, il y a eu des irréductibles gaulois, c'est ça?
Oui, tout à fait. Mais je suis sûr que vous connaissez l'histoire. Les irréductibles gaulois.
Moi, vous savez, je pense comme tout le monde, en ayant lu Astérix, que ça se passe plutôt en Armorique.
Eh bien, oui, Goscinny et Uderzo vont reconnaître cette servie de cette histoire d'Uxellodunum, le dernier village gaulois qui ait résisté à César après Alésia, alors qu'on a appris à l'école qu'Alésia était la dernière bataille. Non, c'était en 52, pendant l'année 51, il va y avoir encore des rébellions, et notamment des Cadurques et des Sénons qui vont descendre dans le sud de la Gaule, avec un objectif, c'est de semer la pagaille dans la provincia, la Narbonnaise. César doit passer en mars 50 devant son Sénat, où il a de nombreux ennemis, et si on arrive à mettre la pagaille, c'est la certitude que on va se débarrasser de César. Donc déjà de la géopolitique. Donc Uderzo et Goscinny reconnaissent qu'ils sont servis de cette histoire. Ils avaient créé Umpapa, ils vont créer le journal Pilote, ils ont besoin de sous, ils vont essayer de vendre Umpapa aux Américains. Et les Américains disent « Oh, les cowboys indiens, c'est notre histoire, occupez-vous de votre histoire ». Ils reviennent, bien sûr, sans contrat, sans le sou, et ils cherchent « notre histoire, c'est quoi ?» Les hommes des cavernes, premier chapitre, mais c'est un ami leur dit que ça y est, ils s'en occupent. Deuxième chapitre, c'est nos ancêtres, les Gaulois. Donc les seules sources à l'époque vraiment importantes, c'est la guerre des Gaules de César. Et Uderzo et Goscinny reconnaissent qu'ils se sont servis. Donc, il leur a fallu quand même arriver au livre 8. Hein, donc l'année 51, c'est le dernier livre de la guerre des Gaules. Et donc ils arrivent à ce livre-là, et il y a donc ce village d'Uxellodunum que César est venu assiéger en personne, puisqu'il a très bien compris le piège dans lequel on voulait le faire tomber. Et il a 12 légions à Alésia, il va en mettre 6 à la poursuite de nos Gaulois, donc 30 000 légionnaires aguerris contre 4 à 5 000 Gaulois, qui sont peut-être souvent que des paysans qu'on a armés pour organiser l'armée de secours, pour essayer de sauver Vercingétorix assiégé à Alésia. Et donc, rattrapés progressivement par les légionnaires, ils vont se réfugier dans Uxellodunum, donc en pays cadurque, et ils vont résister malgré la perte de leurs deux chefs et de la moitié des hommes qui étaient sortis et qui vont se faire prendre au piège du ravitaillement et en pleine nature. Donc leurs deux chefs sont éliminés, 2000 Gaulois sont éliminés également, et le reste de la troupe va résister pendant plusieurs semaines. Il y a 4 légions autour d'Uxellodunum. On pense que ça va durer quelques jours, sauf que les jours passent et a priori, ils n'ont pas l'intention de se rendre. Donc, nos deux généraux, Caius Fabius et Caius Caninus, connaissent l'échéance de César dans quelques mois. Hein. On est fin du printemps, début de l'été. Et donc, ils préviennent César de la difficulté de la résistance de ces rebelles, des gens sans aveu, pour reprendre les mots de César. Et César, qui était en route avec la cavalerie, arrive, et c'est là qu'il nous décrit donc le site d'Uxellodunum, tel que je vous l'ai décrit, cette large rivière, ses falaises, et ces Gaulois qui résistent. Alors César se dit, on est en été, on va les empêcher de descendre à la rivière, on va les priver d'eau. Et on met des machines de guerre, des frondiers autour de la rivière, sur les rives opposées, et nos Gaulois, chaque fois qu'ils essayent de descendre, ils sont accueillis à coups de flèches ou de boulets de fronde. Donc, difficulté pour eux. On peut penser qu'ils vont se rendre. Non, ils ne se rendent pas tout simplement parce qu'ils ont une source qui coule au pied des remparts. Et comme ils sont auteurs, c'est eux qui sont les maîtres de la source. Et chaque fois que César lance une attaque, volée de flèches, et les Romains doivent refluer. Il faut savoir qu'à Gergovie, César avait perdu 700 légionnaires et que c'était une défaite énorme. Donc il ne peut pas renouveler cet exploit. Et donc il va faire construire une tour de 10 étages, en gros 25 mètres de haut. Donc on peut imaginer l'immeuble que ça peut représenter. Et on peut y installer des machines de guerre. Un arc, on va dire une portée de 100-150 mètres, et les machines de guerre, plus de 200 mètres. Donc, nos Romains sont maintenant hors de portée des flèches des Gaulois. Donc, ceci, donc, une solution, c'est de mettre le feu à cette tour de bois. Donc, ils vont faire rouler des tonneaux enflammés. Et ben, ils mettent le feu, mais les Romains sont tellement nombreux, on peut supposer qu'il y a des sapeurs-pompiers. Donc, on éteint, on rallume. Et un matin, nos Gaulois se réveillent et leur source qui coulait abondamment été comme hiver, eh bien, elle ne coule plus. Donc, pour eux, il n'y a qu'une explication. Ce sont les dieux qui les ont abandonnés. Donc plus de chefs, plus de compagnons de lutte, peut-être victuailles qui commencent à manquer, et maintenant les dieux qui ne sont plus là, donc inutile de continuer à résister, il faut se rendre. Donc ils se rendent, et César va être magnanime, il va leur accorder la vie sauve, sauf qu'il fait aligner tous les hommes en âge de combattre, donc on peut penser du grand adolescent au vieillard précoce, et on met le billot, et on coupe la main. Alors on peut penser que c'est la main droite, c'est pas précisé dans les textes, mais la main droite, celle qui tient l'épée, pour montrer qu'on ne s'oppose pas à César et à Rome. Comment s'appelle le chef du village gaulois
Abra Racourcix.
Voilà. Alors, si au lieu de dire Abra Racourcix, on disait Abra Racourcix,
oui.
C'est pas une coïncidence, donc Uderzo et Goscinny reconnaissent. Seulement, comme ils ont déjà l'idée de faire fructifier leur saga d'Astérix, rester chez les Cadurques, donc dans le Lot d'aujourd'hui, on va dire, sans se fâcher avec les Lotois, que c'est un peu au milieu de nulle part. Donc Goscinny, qui est le scénariste, va dire à Uderzo, le dessinateur, eh bien, tu me mets le village où tu veux, mais en bord de mer, comme ça sera plus facile de s'échapper. Hein. Et aujourd'hui, je ne sais plus à combien d'histoires on est, mais on a dépassé la quarantaine, voire la cinquantaine. Et donc, on peut continuer. Une fois en Gaule, il n'y a pas besoin. Et l'histoire suivante, c'est à l'étranger, donc là, on prend le bateau.
Si je vous suis bien, en fait, c'est ici que ça se serait passé.
Alors, on l'a longtemps dit, on l'a longtemps pensé. Napoléon III, en 1862, va dire oui, Luzèche est ce dernier village gaulois, parce que la topographie correspond bien à la description qu'en fait César dans la guerre des Gaules. Sauf qu'en 1865, après avoir envoyé sa commission dans le nord du département et au vu de ce qui a été trouvé autour d'une fontaine, d'une source, la source de Loulier, eh bien, il va se dédire et dire le site officiel. Ça sera confirmé après une quinzaine d'années de fouilles très poussées sur le site du puits dissolu, autour de la fontaine de Loulier. Et je vais dire, depuis 2001, le site officiel est au puits dissolu, donc sur la commune de Vérac et Martel. Alors je crois que la commune précise c'est Saint-Julien, mais c'est dans le nord, c'est loin. Hein.
C'est quand même dans le Lot.
C'est, voilà, c'est une histoire fantastique lotoise.
Je suis sûre que tout le monde ne sait pas ça.
Ben, moi je l'ai découvert par hasard, après 6 ans habitant Luzèche. Effectivement, quand je la raconte aux visiteurs qui passent, là, comme ces 3 personnes que l'on voit derrière nous, je suis sûr qu'ils ne la connaissent pas.
pour rigoler un peu, on pourrait dire que leur potion magique, c'était quoi alors ?
Eh ben, on est en pleine vallée du vin de Cahors, donc je pense que ça pouvait être le vin, peut-être pas encore de Cahors, il n'est pas sûr qu'à cette époque-là il y en ait aussi haut en Gaule, mais les Gaulois, on était très amateurs de vin.
Et ici, concrètement, qu'est-ce qui reste comme preuve de tout ça ?
Alors, le site a été découvert, donc on a parlé de Napoléon III, 1862. Le site est découvert en 1872 par Castagnier. On a la chance qu'il avait fait les fouilles de l'oppidum de Mursins, où il y a un Murus Gallicus. C'est un ouvrage défensif, une muraille que César décrit dans la guerre des Gaules. Et ce sont des poutres enchevêtrées et fixées par de grandes fiches de fer. Ça fait des fosses et ces fosses sont remplies de cailloux. Et César dit c'est imbrûlable, on ne peut pas y mettre le feu. Et ce n'est pas tamponnable par le bélier parce que les Gaulois ne sont pas bêtes. Plus il y a d'élan pour le bélier, plus ils font le mur large. D'où la nécessité de faire des sièges. Et donc Castagnier vient sur l'Usèche pour élargir le seul chemin qui permettait de sortir ou d'entrer dans l'Usèche pour le rendre carrossable, donc praticable avec des chariots, alors que jusque-là il était piétonnier. Et il découvre une de ses fiches en fer, et pour lui c'est immédiat, c'est la lumière. S'il y a une fiche comme ça en fer, il y a un Murus Gallicus quelque part. Et en fait il est sur le Murus Gallicus qui a été mangé par la nature, et donc qui a été arasé certainement à une époque, et qui a servi de chemin piétonnier. Il le décrit sur une soixantaine de mètres. En 1872, donc découvert. 1874, il en fait l'apparition scientifique, donc on connaît plutôt très bien l'intérieur de cette structure. Et il ne se passe plus rien pendant 40 ans. Et en 1912, Henri Pellissier, qui est le médecin du village, rencontre Armand Viré, qui est le président à l'époque de l'archéologie française. Et tous deux s'intéressent à Uxelodunum et se disent eh « Maintenant, on a notre large rivière, on a les 90 mètres ou les 300 pieds romains que César décrit dans la topographie, et maintenant, on sait où est l'oppidum. Donc, on va prouver par des fouilles sérieuses que l'Usèche a pu, on met déjà le conditionnel, a pu être ce dernier village gaulois qui est résisté à César. » Les fouilles, on fait une souscription nationale 1912 pour pouvoir payer des ouvriers. Et les fouilles démarrent en 1913. Premier jour, on redécouvre le Murus Gallicus. Le lendemain, on a la surprise à l'intérieur de l'oppidum, 2 mètres derrière le Murus Gallicus. On découvre un mur, alors qui est étonnant. Il va être appelé le mur calciné ou mur de Hallstatt. Et il est daté à l'époque, ce sont des datations qui ont maintenant quand même une centaine d'années, qui est daté du 5e-6e siècle avant Jésus-Christ, certainement l'arrivée des Celtes dans nos régions. Le Murus Gallicus, lui, il fait partie un peu de ces murs qu'on appelle la civilisation des Oppidas, et qui sont datés en général du 2e siècle avant Jésus-Christ. Quelques jours après, on trouve une troisième fortification sur le même site, à quelques mètres du Murus Gallicus et du mur de Calciné. Et là, la muraille est datée du 5e-6e siècle après Jésus-Christ. Donc la fin de l'Empire romain, les invasions barbares, peut-être les Visigoths dans nos régions. Mais tout ça, ça reste à confirmer ou à redater par des fouilles qu'on espère prochaines.
Donc si j'ai bien compris, on n'a trouvé que 3 murs, c'est tout ? Mais ça devait protéger quelque chose ?
Oui, tout à fait. Alors on n'a pas trouvé que 3 murs, on en a trouvé pas mal. On a trouvé surtout, alors donc 1913, 1914, au vu de ce qu'on a trouvé en 1913, on se dit ça va être merveilleux, sauf que les fouilles ne vont durer qu'une semaine, fin juillet, et puis il y a donc la mobilisation générale, et les fouilles vont s'arrêter pendant, elles vont reprendre en 1921. Et là, on va découvrir ce qu'au départ, on va appeler le cimetière barbare, parce qu'on va découvrir une trentaine de squelettes. Et c'est en cherchant autour de ces squelettes, on va trouver un mur, puis un deuxième, puis un troisième qui fait angle droit avec le précédent. Et comme ça, on va trouver 8 murs. Et en fait, ce sont deux carrés imbriqués l'un dans l'autre. Et pour Armand Viré, à ce moment-là, c'est évident, c'est un fanum, c'est un temple d'origine celtique, mais construit par nos gallo-romains. Quelques 30 mètres plus loin, on va trouver les vestiges de ce que Armand Viré va appeler la villa gallo-romaine. Ce sont deux monuments, enfin deux établissements qui se chevauchent. Alors, pourquoi, comment ? Toujours est-il qu'il y a un mur bien bâti qui est daté du 1er siècle après Jésus-Christ. Et dessus, on va retrouver deux murs qui, eux, sont moins bien bâtis, qui sont des murs de fondation. Donc on a, semble-t-il, réélevé le premier bâtiment. Peut-être était-il trop bas, mais on verra après la relecture du site. Donc ça, c'est ce qui est trouvé par les bénévoles de l'USECH sous la direction d'Armand Viré. Armand Viré, 1926, il va abandonner les Lusécois parce qu'il est convaincu qu'Uxalodunum est au puits dissolu. Il va abandonner l'USECH, il va garder des relations épistolaires avec Henri Pélissier, ils resteront amis. Et à ce moment-là, le comité d'initiative de l'USECH va un peu changer d'orientation, s'occuper un peu moins des fouilles et beaucoup plus du développement économique et touristique du village. On va créer la foire au gras, les balcons fleuris, la foire aux bœufs, voilà. Ça sera plus l'activité du comité d'initiative qui seront, on va dire, plus économiques que scientifiques.
Et aujourd'hui, il n'y a plus de fouilles ?
Alors, les fouilles, elles ont redémarré dans les années 47, tout simplement parce que la bataille a eu lieu en moins 51, et donc l'année 49, ça va être le bimillénaire. Et à ce moment-là, Clochemerle va démarrer, on va avoir des sites qui vont se revendiquer d'Uxalodunum partout. Même Verdun, dans la Meuse, va revendiquer à un moment donné. Donc c'est pour dire qu'il y a les hypothèses les plus farfelues. Chez les Cadurques, chez les Lotois, il va y avoir essentiellement donc l'USECH, Cap-de-Nac, Mursins qui va se réveiller et bien sûr Puy dissolu. Et on va se traiter de tous les noms. La presse nationale va s'en emparer. Enfin, il y aura des articles assez vraiment Clochemerle pour nos Parisiens, les Lotois là. Et finalement, ce bimillénaire ne sera fêté nulle part. Voilà, ça c'est les années 50. Là, elles vont prendre une tournure un peu plus scientifique avec le professeur Labrousse, qui est donc le directeur des antiquités à Toulouse, qui va encadrer les fouilles faites sur le site. On va retrouver un établissement métallurgique, des fours de peut-être métallurgiques. On va trouver un mur dont on ne saura quelle destination lui donner. 50 cm de large, 70 cm par endroit, une cinquantaine de mètres de long. Mais il est intéressant parce qu'il finit en angle droit et l'angle droit est occupé par une structure circulaire d'un mètre 20 de diamètre. Une base de colonne, certainement. Donc on ne sait pas, villa gallo-romaine encore pour les chercheurs. Quelques années passent, forcément les anciens se fatiguent, ils sont comme nous, ils vieillissent, donc ils abandonnent. Les fouilles reprennent dans les années 70, puis après une période dans les années 90, mais toujours centrées autour du fanum. C'est les vestiges qui, ils sont déjà sur une parcelle qui appartient à l'association, enfin au comité, qui va la céder à la municipalité. Donc c'est plus facile pour faire des fouilles d'être sur une parcelle publique. Elles ne sont pas possibles sur des parcelles privées. Et ce qui est intéressant, c'est la relecture du site aujourd'hui.
Donc à part les vestiges des murs, qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre ?
Des squelettes.
Des objets.
Des objets, alors très peu avec nos squelettes, mais tout autour du fanum, bien sûr des tuiles par centaines de kilos, beaucoup d'objets signés, des tuiles, donc qui permettent de situer les tuiliers, les potiers, mais aussi des céramiques. Qu'il a aussi, on en a une trentaine qui sont signées, qui prouvent que l'oppidum, à un moment donné, était un centre commercial d'échange important. Quelques bijoux, quelques pièces. On n'a pas trouvé de vrais trésors, quand même. Mais tout ce matériel est visible au musée de l'USECH. Pour ceux qui ne connaissent pas l'USECH, 1500 habitants en gros, 1700 pour d'autres. Quatre musées, donc il faut passer par l'USECH. Alors, c'est le musée Armand Viré qui comprend trois salles, la salle archéologique, la salle des ammonites, et d'après un inspecteur du Muséum d'histoire naturelle, un des plus beaux musées de France, de par la qualité de sa collection. L'Ichnospace, qui est l'usage, il y a 160 millions d'années, on était au bord du golfe de Gascogne, d'où le fait qu'on ait trouvé toutes ces ammonites, hein, et aussi des pistes de dinosaures. Donc, dans les années 80, ça intéressait l'université de Paris 6, et Madame Lange Badré a fait faire un moulage de 60 mètres carrés de ces traces. Et donc, on a construit un musée des traces de fossiles, donc pas que de dinosaures, mais de fossiles autour de cette piste. Et puis, je vais parler de mes amis de la planète des moulins. La quatrième salle, c'est l'histoire des moulins à travers l'histoire. La force de l'homme, la force de l'animal, la force de l'eau, la force du vent. Et une trentaine de maquettes extraordinaires.
Il y en a des choses à voir à l'Uzèche.
Deux jours complets. Déjà, l'histoire, Gilbert Bouquil pourra vous faire une visite commentée de l'Uzèche. Chose que l'on fait aussi sur l'oppidum, où l'on vous raconte quand même... un peu l'Uzèche. Pas que l'oppidum, pas qu'Uxalodunum, pas qu'Astérix. Donc vous y passez 2 heures, pour 3 euros.
Non, ça va. Alors on revient un peu à votre association qui s'appelle Sur la route d'union des oppidaques à Durc. C'est quoi son objet ?
Alors l'objet premier, c'est l'entretien et la mise en valeur de l'oppidum de l'Impernal à l'Uzèche. Premier objet. Le deuxième objet, c'est fédérer les différents sites, ou en tout cas les oppidas du Lot, autour d'un projet pédagogique, culturel et touristique, puisqu'on a la chance que les principaux oppidas sont à l'ouest, à l'est, au centre avec Mursins, au nord-est avec les Césarines, et puis au nord-ouest avec le Puy d'Issolu.
Et combien y avait-il, à votre avis, d'oppidas dans le Lot ?
Question difficile. Alors, je ne suis pas du tout scientifique, ni même historien. J'ai été directeur de supermarché, c'est vous dire la difficulté pour moi de répondre à cette question. Mais on peut en citer 5, comme je viens de le faire. On peut en rajouter peut-être 3 ou 4, ou peut-être 5, qui ont des surfaces peut-être tout à fait différentes. Celui de Puy d'Issolu est connu sur 80 hectares. L'oppidum de l'Uzèche, a priori, fait 700 mètres de long sur sa partie fortifiée et sur 200 mètres de large au plus large. Sur combien, s'étend-il ? Est-ce que c'est sur 10 hectares, 12 hectares ? On a des difficultés à voir la partie de la pente qu'il occupe.
Et est-ce qu'ils occupaient des endroits stratégiques ?
Oui, facile à défendre. Alors celui de l'Uzèche, en tout cas la position, le site de l'Uzèche est occupé depuis au moins 15 000 ans, puisqu'on a une grotte qui est sur la Cévenne côté est, donc côté Caisse, où les matériels découverts et que l'on peut voir au musée sont datés de 15 000 ans. Donc une situation, on va dire, d'observation, peut-être d'abord pour des bandes ou des tribus nomades, et puis après on a les traces d'un village néolithique sur une deuxième colline qui précède celle de l'Impernal où nous sommes. Donc là, on est peut-être 5000 ans avant Jésus-Christ, et puis on a ce mur de Hallstatt, donc 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc on a une présence certaine sur ce lieu depuis longtemps. Ce qui va peut-être un peu expliquer la relecture du site qui en est faite.
Justement, quelle est la relecture aujourd'hui ?
Alors la relecture, elle est faite par un archéologue dont on peut douter de la compétence puisqu'il est directeur de la cellule d'archéologie préventive du département. Où qu'il était, puisque maintenant il va partir à Bordeaux Métropole pour prendre la direction de l'archéologie. Lui, c'est un spécialiste du bâti religieux gallo-romain. Et il a été longtemps l'animateur du site de Gisacum, le Vieil Évreux, donc un des plus gros sanctuaires connus en Gaule. Et quand il a vu le Fanum, il a été intrigué par la largeur du couloir, qui à son avis est beaucoup trop étroit. Donc il ne faudrait pas lire le Fanum tel qu'il est décrit sur le petit panneau qui accompagne les vestiges, mais il faudrait lire chaque carré indépendamment l'un de l'autre, mais avec des murs que l'on sait qui sont tout autour. Et à ce moment-là, on aurait deux Fanums qui n'auraient donc pas fonctionné en même temps puisqu'ils sont l'un sur l'autre. Et ça pourrait être confirmé par la lecture des signatures de Thuillier qu'a faite Georges de Perrault, qui est donc historien spécialiste en monnaie, mais qui est venu nous aider à étudier le matériel du musée. Et on a donc deux signatures de Thuillier qui ont travaillé à plusieurs décennies d'écart. Donc l'hypothèse de deux Fanums successifs pourrait se confirmer par la relecture des tuiles. Et le deuxième vestige que Laurent Guyard a réexaminé, c'est la villa gallo-romaine d'Armand-Viré, qu'il a décrite il y a 100 ans. Par rapport aux nouvelles connaissances que l'on a, pour Laurent, on serait en présence de deux temples romains qui, là aussi, se chevaucheraient. L'un étant peut-être trop bas, petit, ou peut-être détruit pour X raisons, on a reconstruit quelque chose de beaucoup plus haut. Bon, je ne suis pas un spécialiste, mais pour lui, la structure même des murs pourrait conforter son hypothèse. Ça reste une hypothèse. Si l'hypothèse se vérifiait, aujourd'hui on aurait donc quatre temples qui n'ont pas fonctionné en même temps, mais sur les autres oppidas du Lot, à ce jour, on n'a pas de temple connu. Donc on pourrait être, je mets bien le conditionnel, sur un centre cultuel important, pourquoi pas le plus important du peuple des Caturques. Et si tel était le cas, il nous faudra trouver le théâtre. Et là, on a une petite idée par rapport au mur que je décrivais des années 50, ce long mur de 50 mètres terminé en angle droit par une base de colonnes énorme. Ça pourrait, alors comme c'est un mur qui est à l'ouest, qui est bordé de terrasses, ces terrasses ne seraient-elles pas les niveaux du théâtre, Là, ça, c'est plutôt ma lecture que celle de Laurent, mais parce que je suis un grand rêveur et je rêve de mon internat presque nuit et jour.
Ouais, il y a encore du travail pour les archéologues, alors.
Oui, parce que pour continuer sur l'hypothèse, on pourrait peut-être trouver des termes. Alors, pas sur l'oppidum même, mais peut-être dans la vallée, puisque maintenant, il ne faut pas l'oublier, on est chez les Gallo-Romains, on n'est plus forcément. Donc, on est devenu Gallo-Romain, on va au forum, et là, peut-être que notre parcelle, puisqu'on est propriétaire de cette parcelle de 6000 m², bien plate, pourrait avoir été le forum, mais là aussi, je rêve encore. Et puis après on allait au forum, on discutait politique, on votait, vie sociale, l'organisation de la vie. On allait d'abord au temple, puis au théâtre et puis au terme. Voilà la relecture possible du site, sachant qu'on est sur un site plurimillénaire de 15 000 ans, donc peut-être des processions, un culte ancien qu'on vient perpétuer peut-être jusqu'au Moyen-Âge, puisque les tombes dont je vous ai parlé dans le Fanum sont datées du Haut Moyen-Âge. Donc rien à voir avec nos Gallo-Romains. À ce jour, on n'a pas trouvé de traces plus anciennes.
Comme ici, il y a une histoire millénaire, quid de la religion et des traces qu'ont laissées les Celtes ?
Alors je répète, je ne suis pas ni historien ni archéologue. Par contre, j'observe et j'ai consulté toutes les archives possibles. Et sur une vieille archive photographique qui date des années 50, il y a deux cercles qui ne sont pas des ombres d'arbres et qui sont intrigantes. Ça pourrait être des fosses funéraires. Elles ont à peu près entre 1,50 m et 2 m de diamètre. C'est l'interrogation que l'on porte aujourd'hui.
Ça, c'est en hauteur sur l'oppida.
Sur l'oppidum. Sur l'oppidum, oui. Pas très loin de nous, mais par discrétion, je ne vais pas donner l'emplacement. Qu'est-ce que l'on peut dire encore ? Alors, cette relecture du site, elle a intéressé fortement donc, le service régional d'archéologie et l'Université de Toulouse. Et donc, le service régional d'archéologie nous a entouré d'un comité scientifique composé de 8 archéologues de terrain et universitaires. Et l'Université de Toulouse, par son laboratoire TRACE, nous a confié, on va dire, une étudiante qui a accepté de faire son master d'archéologie sur l'oppidum de l'Impernal à Luzèche. Donc, une belle évolution en 5 ans pour l'association. Et puis, le rêve qui était le nôtre en 2015, quand on a créé l'asso, c'était une reprise des fouilles. Et on se rend compte qu'on n'est peut-être pas très loin, puisque le SRA, donc Service Régional d'Archéologie, nous a confirmé que l'hiver prochain, donc peut-être février-mars 2022, là où, au moment où la forêt qui recouvre l'ensemble de l'Impernal aura perdu un maximum de feuilles, il y aura le survol du site par un drone équipé du système LIDAR. Alors, sans rentrer dans la technologie, parce que j'y connais rien, mais en gros, c'est des millions de points végétaux minéraux. On élimine par informatique les points végétaux, reste le minéral, et ça permet, par lecture 3D, de voir tous les dénivelés qui sont aujourd'hui invisibles. Donc peut-être de relier des murs, de constater des angles droits qui pourraient être intrigants, des arcs de cercle, puisque quelque part, un théâtre, a priori, il y a des arcs de cercle. Enfin voilà, donc c'est l'aboutissement ou le début d'un autre rêve.
Pour ceux qui seraient intrigués et qui, suite à tout ce que vous venez de raconter, n'auraient qu'une envie, c'est de découvrir l'oppidum, qu'est-ce qu'on peut voir concrètement ?
Alors, si vous voulez, le plus difficile, c'est de monter. On est quand même accessible par une route plutôt étroite. Une fois qu'on y est, faites-vous accompagner, visite commentée par les bénévoles de l'association, un numéro de téléphone 06 83 25 10 73. 06 83 25 10 73. Et on prendra rendez-vous, c'est quand même mieux parce que très souvent on voit les promeneurs passer, faire 700 mètres et un quart d'heure après on les revoit dans l'autre sens. Et tout l'intérêt c'est de se faire raconter l'histoire des vestiges, l'histoire du Xélodunum. Je crois que rien ne vaut la visite commentée.
Et il en est prévu cet été ?
Je travaille surtout sur rendez-vous, mais je pense qu'on assurera une présence le mardi, le jeudi et le samedi. Visite le matin vers 10h, visite l'après-midi plutôt vers 17h. Il faut prévoir 1h30, 2h pour se promener tranquillement, discuter, faire connaissance et puis se faire raconter l'histoire et les hypothèses qui résultent de cette relecture du site. Donc aujourd'hui, on est propriétaire d'une parcelle de 6000 m2. On a clôturé 600 m2. On a acheté des tonnelles. Donc il y aura une quinzaine de panneaux pour raconter l'histoire, parce que je ne suis pas toujours là. Donc d'autres bénévoles sont peut-être un peu moins au courant, mais il y aura de l'information. Il y aura un espace petit enfant pour libérer la maman, qui en général est contrainte. Donc ils pourront jouer avec des puzzles ou de la pâte à modeler ou de la peinture, enfin ça reste à organiser. Surtout pour les scolaires, on va avoir 2 fosses de fouilles en gros sur une quinzaine de mètres de long pour faire travailler en gros entre 20 et 25 élèves en même temps, pour non pas leur montrer comment on fait des fouilles, mais ce que sont des fouilles. C'est un travail de terrain, mais surtout un travail de relevé. Voilà. Des toilettes sèches pour accueillir les gens et surtout la réalisation d'un Murus Gallicus dans ses différentes phases de construction. Donc on va partir avec 2 poutres au sol, puis 4, puis 6, ça va faire des fosses, à ce moment-là on va les combler de cailloux, et la deuxième partie du mur, sur 7-8 mètres, ça sera un mur parmenté, surmonté d'une palissade, et je rêve toujours, mais je veux faire rêver les gamins derrière cette palissade, des figurines de Gaulois en train de guetter l'ennemi, le Romain qui va arriver. Voilà, alors... Aujourd'hui, les scientifiques nous ont rejoints, continuent à nous rejoindre. On a un botaniste qui s'est joint à nous, qui a écrit sa thèse sur la flore du Cos. Et donc, on va lui confier la partie intérieure de notre petite parcelle de 600 m2 pour faire un petit parcours botanique. Sachant que l'extérieur, comme j'aime les jardins, ben, c'est plutôt un jardin d'agrément, il va y avoir de la sauge, de la couleur. Voilà. Pourquoi je vous racontais ça ? Ben parce que ben on a besoin de sous pour faire tout ça. Alors les subventions, ben on va dire la commune nous suit, le conseil départemental a fait jusqu'à présent un petit effort, mais s'est engagé a priori pour l'année prochaine à nous ouvrir une ligne archéologique un peu plus importante. Et on cherche un mécène qui pourrait nous aider à aller plus vite dans la finition de notre projet.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Marin. Un petit mot pour conclure notre interview.
Merci à vous, et puis à bientôt aux auditeurs. Je rappelle peut-être le numéro, 06 83 25 10 73.
Merci beaucoup. Oh.